Et alors, bonjour, je vous remercie d'être venus si nombreux à cette rencontre du CRILC avec Wajdi Mouawad. Je suis très très heureuse qu'il ait pu se libérer pour venir nous voir. Je suis très heureuse que vous soyez venus donc passer cette heure avec nous. Je m'appelle Jeanne Bobet, je suis professeure au département d'études françaises de l'Université de Montréal. Cette rencontre est organisée par le CRILC, donc le Centre de recherche en littérature et en culture québécoise. Elle est sous le titre, intitulé « De croiser les chemins ». Croiser les chemins, c'est évidemment une allusion, enfin c'est évidemment inspiré d'une réplique, enfin d'un leitmotiv de Simone dans Littoral, dont le cri de ralliement est « À la croisée des chemins, il peut y avoir l'autre ». Alors, il peut y avoir l'autre, effectivement, il peut y avoir la rencontre dans cette croisée des chemins. Il peut aussi y avoir, si on ne reconnaît pas l'autre, il peut y avoir le drame. On tue l'autre, exactement comme Œdipe tue à son père à la croisée des chemins, et comme dans Littoral, Amée tue son père aussi. Donc c'est un moment crucial. Alors évidemment, je ne pense pas qu'on va le dramatiser à ce point aujourd'hui. Ce titre me paraissait pertinent pour la rencontre parce que Wajdi Mouawad a croisé beaucoup de chemins et son chemin en a croisé évidemment beaucoup d'autres. Les chemins de nombreux artistes avec lesquels il a travaillé, collaboré. Il a aussi croisé, dit-il, des histoires qu'il croise comme des femmes dans la rue et qui demandent à être racontées. On croise aussi, alors si on étire un petit peu la métaphore, on peut croiser les fils de ces histoires-là pour tisser une œuvre, et œuvre il y a effectivement à ce stade. Et on peut aussi alors croiser les chemins et en croisant les chemins, croiser le fer. Certaines polémiques notamment auxquelles a participé M. Mouawad ou qu'il a initié lui-même. Mais aujourd'hui, donc, le plaisir, c'est surtout de croiser son chemin et qu'il croise les nôtres. Et voilà, je vais le laisser tout de suite lire, comme à l'accoutumée dans ce type de rencontre, un extrait d'une de ses pièces. Alors, je lui laisse le soin de présenter l'extrait.
Bonjour. Je vous remercie. Enfin, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un moment, pour moi en tout cas, qui est très. Qui est plein d'inattendus. Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de la rencontre aujourd'hui. Peut-être une phrase, peut-être rien, peut-être un mot. On verra. On m'a demandé donc de vous lire un extrait. J'ai beaucoup hésité parce que je suis en ce moment en train d'écrire une pièce et j'avais une énorme envie de vous en lire un extrait, mais en même temps j'avais très peur de. Comment vous dire ? C'est un peu comme lorsque vous avez une relation amoureuse passionnelle. J'ai très envie de vous en lire un extrait, mais je sais très bien que. Une fois que je vous aurai lu l'extrait, ça va me plonger dans un état de dépression profonde. Donc, par prudence, j'ai décidé de mettre un frein à mon désir de partager quelque chose que je suis en train de construire. Mais, je vais vous lire un extrait, ça peut être intéressant, d'Incendie, mais c'est un extrait que j'ai coupé. Donc, c'est un extrait que jamais personne n'a entendu, parce que c'est un extrait que j'ai coupé le jour de la générale. Donc, qui a été répété, il a été travaillé, il a été mis en place, il a été enchaîné souvent à l'intérieur du spectacle. Et le jour de la générale, j'ai fait des coupures et ce passage a été coupé. Donc c'est ce passage-là que je vais vous lire. Il n'est pas très long, il fait 2-3 minutes. C'est un monologue. C'est un monologue que un fils dit à sa mère. Incendie raconte l'histoire d'une femme qui, après des années, s'est tue. Et 5 ans de silence vont précéder sa mort. Et une fois qu'elle est morte, ses enfants vont se retrouver devant cette énigme-là, pourquoi leur mère s'est tue. Et ils vont essayer de comprendre. Et au cours de cette quête, ou cette odyssée, je ne sais pas, à un moment donné, il y a un souvenir. Le souvenir de la journée où la mère s'est tue. Ce jour-là, elle s'est tue. Et 5 ans vont suivre de silence. Donc, c'est l'histoire de ce silence. Alors, c'est pour ça que je vous lis directement de l'ordinateur, c'est parce que ça n'existe pas dans le livre, c'est pas pour me donner des airs. Bon. Alors, attendez. Je vais ouvrir le micro, comme ça. Voilà. C'est une scène qui s'appelait Anniversaire. Table avec gâteau d'anniversaire, 15 bougies allumées. Simon dit, en s'adressant à sa mère, on t'a attendu, on t'a tellement attendu, tellement cru, pas un moment on a douté, pas un seul moment, fuck, on t'a cru, tu nous as dit, la journée sera à nous, tu nous as dit, on fera le gâteau ensemble, on ira tous les trois ensemble au cinéma, puis acheter les gâteaux, puis manger au restaurant, puis marcher dans la nuit, puis veiller toute la nuit, boire du vin pour la première fois, dormir dans un parc, aller sur la montagne, courir dans le cimetière, tu l'as dit, tu nous l'as répété depuis un mois, et nous, depuis un mois, on imagine, on l'avait dans la tête, dans le cœur, notre anniversaire, notre 15e anniversaire, Jeanne et moi et Jeanne. Tu nous l'as promis, on sortira avec toi, on ira avec toi parce qu'on est devenu grand. Tu nous l'as promis, juré. Quand vous serez grand, on sortira ensemble. Alors nous, tous les jours, on compte les jours pour pouvoir sortir avec toi comme des grands. Se promener dans la rue le soir, aller où tu vas, voir ce que tu vois, faire ce que tu fais. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu ne parles pas? Fuck, tu nous as dit, je vous parlerai de votre père, vous raconterai encore son histoire. Vous direz encore combien je l'ai aimé, comment il est mort en héros, comment il a donné sa vie, comment tu l'aimais au milieu du bois, dans la forêt, le rocher aux arbres blancs que tu nous a raconté il y a longtemps. On fait quoi maintenant, maman? On fait quoi? Je veux dire, fuck, on t'espérait tellement. On s'est dit, bon, c'est pas grave, quelque chose l'a retardé, elle va arriver, ça sera pas long. Alors on a voulu te montrer comment on était devenu grand, te faire une surprise. On va faire le gâteau nous-mêmes. On s'est dit, elle va être tellement contente. On se disait qu'en faisant le gâteau nous-mêmes, on allait te montrer qu'on comprenait, que ce n'était pas grave ton retard, que l'important c'était d'être ensemble. On s'en fout du retard. Alors on a fait le gâteau, on l'a fait. On avait peur que tu arrives avant de l'avoir fini. On l'a fini, on l'a sorti du four, on n'a pas attendu pour mettre le crémage. On voulait te faire une surprise. Fuck, une surprise pour toi le jour de notre anniversaire. Le monde à l'envers, on a attendu, t'es pas venu. On a mis les bougies, t'es pas venu. Alors Jeanne est restée, au cas où tu arriverais, je suis parti acheter les gâteaux, les cadeaux, acheter la bouteille de vin, me battre avec le gars qui ne voulait pas me la vendre. Tu n'as pas l'âge, il m'a dit. Alors j'ai hurlé, c'est pour ma mère. Aujourd'hui, je retrouve ma mère et je veux lui acheter du vin. Plus personne n'a parlé, on m'a laissé partir. Je suis parti, j'ai acheté n'importe quoi, je suis revenu et sur le chemin, je me disais, elle est sûrement revenue, elle est sûrement arrivée, sûrement déjà là. Je cours, j'arrive, t'es pas là. On voulait te montrer combien on pouvait être responsable, que tu sois fier de nous. Tu nous as tellement souvent dit, vous devez savoir vous organiser, être responsable, ne compter que sur vous. On a fait tout ça, maman. Après à lire, appris à écrire, à lire, à compter, comme tu nous l'as dit, on est devenu grand, comme tu voulais, on est devenu seul et fort, comme tu voulais, tout ce que tu voulais, on t'a rien demandé, maman, sauf d'être là aujourd'hui, c'est tout, on te demandait rien que ça, être avec nous aujourd'hui, parce que c'était important pour nous, tu comprends ça, maman, important pour nous, tu comprends ce que ça veut dire, parle, fuck, parle, pourquoi tu ne dis rien, pourquoi tu ne réponds pas, dis-nous pourquoi tu n'es pas venu, invente quelque chose, n'importe quoi, mens, mais dis-nous pourquoi tu n'es pas venu, parle, fuck, parle.
Merci. Est-ce que, enfin, c'est peut-être anticipé, mais est-ce que la raison pour laquelle vous l'avez coupé cette scène, c'est pourquoi?
C'est intéressant parce que je l'ai coupé. Contre l'avis généralisé des acteurs, qui voulaient absolument pas couper cette scène-là, qui trouvaient que c'était une scène très importante pour Simon, parce que c'était une scène où on voyait à quel point Simon était attaché à sa mère, parce que c'est une, dans cette pièce, au début de la pièce, ce personnage-là exprime une colère très 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 violente envers sa mère. Et ce monologue arrive peut-être 2 heures plus tard. Et donc, on a eu une grande conversation le jour de la générale, où on discutait de ça. Est-ce que c'était important ou pas de montrer l'amour que Simon avait envers sa mère, de le dire, de l'entendre dire, etc. Ce monologue-là arrivait après l'entracte. Dans le spectacle, il y avait un entracte et ça ouvrait la deuxième partie. Après ce monologue-là, il y a une scène où on voit la mère, à l'âge adulte, prise dans un système de résistance durant une guerre civile. Elle est avec une amie, et le journal pour lequel elle travaille a été ravagé, des gens ont été assassinés, et elles sont dans un état de persécution en fait assez intense. C'est une scène qui raconte ça. Donc cette scène-là entre la mère et son amie arrivait tout de suite après le monologue que je viens de vous dire. Après cette scène-là, il y avait une scène où la fille interroge un homme du village qui a connu la mère il y a longtemps. Et après cette scène, il y a une très grosse scène entre la mère jeune et son amie après un massacre dans un village où elles ont à se poser des questions. C'est un peu la scène principale de la pièce. Et j'avais le sentiment que ce monologue-là faisait en sorte que cette grosse scène arrivait un tout petit peu, elle arrivait peut-être 5 minutes trop tard. Rythmiquement, il y avait quelque chose qui faisait en sorte que quand la grosse scène arrivait, elle s'épuisait en cours de chemin. Et donc, il fallait, c'est un peu comme un truc d'acupuncture, c'est pas, parfois, quand vous travaillez au théâtre, vous pouvez avoir l'impression qu'une scène est longue, mais ce n'est peut-être pas la scène qui est longue, c'est peut-être une scène qui est arrivée, je sais pas, une heure avant qui est de trop. Alors c'est un peu comme l'acupuncture, vous mettez une aiguille dans le talon et puis ça soigne l'estomac. C'est un peu la même chose. Il faut, quand vous avez le sentiment qu'une scène est trop longue dans un spectacle, il faut peut-être aller voir en amont ce qui se passe. Et peut-être que c'est là qu'en enlevant une scène ou en retravaillant une scène ou en retravaillant le rythme d'une scène, cette scène-là qui vous paraissait longue, tout à coup, trouve étrangement son rythme. Et cette scène-là, cette grosse scène entre les deux personnages, entre la mère et son amie, était tellement importante, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'enlève ce monologue-là pour que cette scène-là arrive un peu plus vite et qu'on ne subisse pas un sentiment de longueur à travers elle. Donc ça a été un truc de... C'est pour une raison mathématique, tout simplement. C'est, voilà.
Donc il fallait la sacrifier.
Oui, oui.
Ouais. Je suis contente de vous avoir entendu lire et dans la foulée expliquer aussi le processus d'écriture parce que c'est sur ce plan-là que je voulais en fait commencer l'échange. Vous avez un parcours d'homme de théâtre extrêmement complet et complexe. Vous avez commencé donc à l'École nationale de théâtre, vous y étiez inscrit en interprétation à peu près à l'âge qu'ont beaucoup de gens ici dans la salle. Il y a énormément d'étudiants de l'université qui sont ici aujourd'hui. Donc vous avez commencé, au départ, vous vouliez être comédien.
Oui.
Et ensuite, vous, avec des amis, vous avez fondé un théâtre, le théâtre Haut-Parleur,
voilà.
Une compagnie théâtre Haut-Parleur.
Oui.
Vous avez commencé aussi à écrire des pièces. Vous êtes, et c'est essentiellement, enfin, c'est entre autres pour ça que maintenant on vous connaît en tant que dramaturge, avec une quantité de pièces, oui, Protagoras enfermé dans les toilettes, Incendie dont vous avez eu un extrait, Littoral évidemment, Rêve, enfin, tout, déjà une œuvre très 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 complète, très consistante. Vous avez aussi évidemment une expérience de metteur en scène qui est venue à peu près en même temps et qui s'est développée parallèlement et quelquefois en même temps justement que vous écriviez vos pièces. Alors ce que je voudrais savoir en fait pour le bénéfice des étudiants qui sont ici mais aussi pour nous qui ne connaissons peut-être pas cette préhistoire là, c'est comment vous en êtes venu au théâtre, pourquoi d'abord c'était jouer qui vous intéressait, comment ensuite, est-ce que c'est ensuite ou est-ce qu'en même temps vous avez développé ce goût pour l'écriture et parce qu'à vous entendre lire, on voit très bien évidemment que vous deviez être un très bon comédien. Et est-ce que vous jouez encore ou est-ce que vous voudriez jouer encore?
La question que vous me posez est une question qui... c'est-à-dire la personne qui va vous répondre, c'est une personne qui aujourd'hui porte un regard sur celui que j'ai été il y a 15 ans. Mm-hmm. Donc la réponse, c'est une réponse du présent et non pas une réponse du présent de ce passé-là. C'est-à-dire ce que je vais vous répondre était absolument inconscient à cette époque-là. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui je m'explique les choses, mais sur le coup on est pris dans un brouillard assez épais dont on en sort sans trop savoir comment, et plus tard on se dit mais ça a été un miracle. Et ce que je peux vous dire, c'est que je suis arrivé au Québec en 83 très perdu à l'adolescence, dans un lien très douloureux à la famille, parce qu'on était dans une situation très très difficile, à la fois financièrement, parce que mon père avait tout perdu à cause de la guerre civile au Liban, moralement, parce que ma mère venait d'être diagnostiquée atteinte d'un cancer du sein. Me retrouvant dans un contexte d'études qui ne me plaisait absolument pas, avec une sorte de pression très grande qui était la nécessité de réussir dans un domaine où je sentais que je n'avais pas les capacités intellectuelles d'être à la hauteur de ce qu'on me demandait de faire. C'est-à-dire, on voulait que je rassure la famille, mais je comprends, c'est pas du tout un reproche ce que je dis, mais on voulait que j'enlève de la pression à la famille, c'est-à-dire que la famille avait déjà assez de problèmes comme ça, il fallait que moi je me tienne. Me tenir, ça voulait dire être un très bon étudiant en sciences pures pour avoir un métier, pour que je règle, ne pas être un problème, ne pas ajouter au problème de la famille. C'était une sorte de pression que je n'arrivais pas à relever parce que j'étais pas un bon élève et je devenais de moins en moins un bon élève à mesure que les mois avançaient. Et puis, alors tout ça, l'un dans l'autre, a fait en sorte que, en plus, il y avait une telle différence entre les valeurs qui étaient véhiculées à la maison, les valeurs qui étaient importantes à la maison, et les valeurs qu'il y avait à l'école, au cégep. Et l'espèce de contradiction violente qu'il y avait entre les deux. C'est-à-dire qu'à la maison, je devais être comme ça, mais je ne pouvais pas être à l'école comme j'étais à la maison, parce que si j'étais à l'école comme j'étais à la maison, il était certain que je ne me faisais aucun ami, aucun copain, aucune copine, rien. C'était impossible. Donc il fallait un peu comme, vous savez, Superman qui change de costume dans les portes tournantes. Il fallait que dans le trajet qui me menait de l'école à la maison et de la maison à l'école, que je change de valeur, que je change de principe, que je change de langue, que je change pour arriver à l'école et être un gars avec qui on avait envie d'être un bon copain, etc. Puis là, une fois l'école était terminée, il fallait que je rentre à la maison, que je remette les valeurs de la... etc. Bon. Et ça, ça a été une sorte d'oppression et de pression qui a fait en sorte que quand un copain m'a demandé si je voulais jouer dans une pièce de théâtre amateur à l'école, j'ai dit oui, pour faire partie d'un groupe, pour être copain avec des amis, quoi. En France, je faisais beaucoup de sport et c'était ma façon d'être dans un groupe. Mais au Québec, à cette époque-là, on ne pouvait pas à la fois faire du sport et lire. Il y a une sorte de contradiction violente. Faire du sport et lire, ça n'allait pas ensemble. Si tu fais du sport, tu fais du sport, puis tu ne lis pas. Tu n'écoutes pas Barbara, tu n'écoutes pas Léo Ferré, tu... Pourtant, j'aimais les deux. Et donc, je ne pouvais pas participer au sport ici. J'ai essayé de faire partie de quelques équipes, mais ça ne marchait pas du tout. Et le théâtre amateur est arrivé. Ça a été une façon pour moi de faire partie. Alors, j'ai fait des décors. C'était une pièce, c'était Bousille et les Justes. Et je faisais le garçon au début qui amène les valises, et c'est tout. Mais j'ai fait les décors, j'ai transporté les décors, etc. Et puis, j'ai trouvé là, dans le théâtre, un désir, une envie très forte. Et ça coïncidait avec une sorte de... Un jour, j'ai quitté l'école. C'était à Grasset. Tout ça se passait au collège Henri Grasset, dans le Nord. À ce moment-là, ça faisait 2 ans qu'on était au Québec. Et j'étais jamais allé au sud de Jean Talon. On habitait Ville-Saint-Laurent, et puis c'était le quartier libanais, enfin arabe. Puis, là, cette journée-là, une journée où j'ai séché mes cours, j'ai pris le métro, et puis j'étais au sud de Saint-Laurent, de Jean Talon, et je me suis arrêté à la station Laurier, parce que le mot me plaisait, le mot Laurier me semblait très poétique. Je suis descendu et je suis passé devant un bâtiment sur lequel il y avait marqué « École nationale de théâtre du Canada ». Je suis rentré, j'ai fait un tour, je me souviens encore, j'ai croisé des types en collant, ça m'a semblé très artiste comme ça, tu sais, au départ, puis je me suis informé, on m'a dit qu'il faut passer des auditions, alors pour jouer le jeu, j'ai passé des auditions, et ces auditions vont me plonger, vont changer ma vie parce que bon, j'ai été accepté. Puis, ce qui était bien, c'est qu'il fallait passer un stage qui dure 5 jours. C'est-à-dire qu'à l'École nationale, vous passez d'abord une première série d'auditions, et puis de ces premières séries, ils en gardent 32 à qui ils font faire un stage qui dure 5 jours. J'ai eu la chance d'être pris dans ce stage qui durait 5 jours, et là, pendant 5 jours, on nous a appris à danser le tango, on nous a fait lire, moi, des textes que j'avais jamais lus, Bergin, Ibsen. C'était un monde complet qui s'ouvrait à moi. Il n'y avait pas de notes, et ça, c'était... Et j'ai fait ce stage avec la conviction que de toute façon je ne serais pas accepté. Mais c'est sûr que j'avais le désir au fond de moi de vouloir l'être. Mais et en effet, enfin 5 jours plus tard, quand j'ai été accepté comme comédien, là-dedans, j'ai ressenti une sorte de soulagement tellement profond, tellement fort, un peu comme si quelqu'un m'enlevait le sac à dos rempli de cailloux que la vie s'était arrangée à remplir graine par graine, de sorte que j'ai jamais senti le poids s'accumuler sur mes épaules. Et là, d'un coup, quelqu'un me l'enlevait. Quand j'ai vu mon nom sur la feuille, ça a été une sorte de lévitation, je dirais, très puissante, très très puissante. Je suis entré à l'école, et puis, comme comédien, je voulais devenir comédien, c'est ça que je voulais faire, porter la parole des autres, jouer, exister sur une scène, être en avant, tout ça, quoi. C'est un manque d'amour insensé, quoi, c'est clair. Puis, très rapidement, au cours des 3 premières années, j'ai compris que je ne jouerais pas beaucoup à cause de mon accent. Parce que on a essayé au cours des 4 ans de m'apprendre à parler en québécois. Mais c'est une langue difficile à apprendre, surtout avec des Québécois. C'est-à-dire que dès que j'essayais, il y avait des réactions tout de suite qui étaient des rires ou bien... Bon, alors, j'y arrivais pas, et puis très rapidement, grâce à la section écriture qui devait un jour nous écrire des textes pour notre classe à nous, on était tellement excités d'avoir un auteur qui allait nous écrire un texte à nous, on arrive, la première journée de lecture, on ouvre le texte, et là on voit le nom des personnages, et là il y avait, ça s'appelait Charlotte, Étienne, Marcel, Paul, puis là il y avait genre Rachid. Et là j'ai compris que le pauvre auteur a dû justifier un acteur dans la classe qui, lui, n'avait pas l'accent. Et je m'étais dit, là, lui, cet auteur, il est obligé d'écrire pour notre classe. Donc, il est obligé de m'écrire un rôle. Mais quand je sortirai de l'école, il n'y aura pas vraiment, je ne pense pas qu'il va exister un auteur qui va se dire, tiens, je vais écrire un rôle un peu particulier pour Wajdi. Et donc, j'ai compris que je ne jouerai pas. Et ça a été pour moi à la fois un salut de comprendre ça, d'avoir cette illumination, de comprendre ça très vite pendant que j'étais à l'école, de ne pas le comprendre une fois sorti. Là, je m'étais dit, mais moi, je ne pourrais pas vivre si je ne joue pas. Alors, je vais m'écrire mes rôles, je vais écrire mes pièces. Alors, j'ai écrit une pièce, et je me suis rendu compte que c'est en écrivant que j'allais pouvoir participer à la création. Alors, j'ai écrit une pièce qui était Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, 19 comédiens, j'ai fait une lecture. Et là, petit à petit, je me suis rendu compte de la place un peu particulière que je pouvais avoir. Et je suis sorti de l'école en sachant que je ne jouerais pas. Et d'ailleurs, les 2 premiers rôles que j'ai eus en sortant de l'école, c'était un bègue qui ne disait rien dans les chaises d'Ionesco. Et l'autre rôle que j'ai eu, c'est un poète dans Caligula qui se fait couper le sifflet après 3 mots. Et symboliquement, c'était très très fort. C'était, oui, tu peux jouer, mais ne parle pas. Et ça a été pour moi un moteur d'écriture très très puissant, parce que je crois quand même que j'étais à ce moment-là habité par un chagrin tel, et ce chagrin ne pouvait s'exprimer qu'à travers une colère forte, à travers les mots. Et il fallait que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Donc l'écriture est revenue. Je dis revenue parce que l'écriture n'est pas arrivée, elle est revenue, parce que l'écriture est antérieure à tout ça. L'écriture est arrivée en France pendant mes premières lectures, quand j'ai lu les premiers grands romans de ma vie qui m'ont donné envie d'écrire à nouveau. L'écriture est revenue comme une sorte... Vous savez, les plus grands amours, ce sont les amours de l'enfance. Et c'est comme si je retrouvais l'écriture, un peu comme si vous retrouviez la fille dont vous étiez amoureux quand vous aviez 6 ans, quoi. Et vous avez vécu un grand, grand amour de garderie, et puis, la vie vous sépare, et puis vous vous retrouvez à l'âge de 45 ans, face à face, et vous vous rendez compte que vous aimez toujours cette personne. L'écriture s'est présentée un peu à moi, un peu comme cet amour de l'enfance, quoi. À partir de là, ça s'est ouvert. Puis par la suite, j'ai assisté à la mise en scène de mon premier texte, qui a été une chose très difficile, très douloureuse, pour toutes sortes de raisons. Je me suis rendu compte que la seule façon que j'avais de pas être tenté par soit le meurtre, soit le suicide, c'était de monter les pièces moi-même, quoi. C'est pas compliqué, c'était de faire les mises en scène moi-même. Et les choses se sont peu à peu placées de cette façon-là. Et pour répondre totalement à votre question, oui, j'ai toujours eu envie de jouer, mais malheureusement, le milieu du théâtre est fait de telle sorte qu'on catalogue rapidement les gens, et puis c'est normal. Puis je pourrais pas jouer dans Incendie parce que j'ai besoin de la regarder, j'ai besoin de la construire, vous voyez.
Oui, merci. Ces pièces que vous construisez, ces histoires que vous racontez, on exclut beaucoup de gens, mais que c'est la, qu'au théâtre comme en littérature, c'est la fin des grands récits, des grandes histoires, des récits unificateurs. Or vous persistez à raconter des histoires, vous les rencontrez, elles vous appellent, vous avez besoin de les raconter, et en plus dans ces histoires là non seulement ce sont vos histoires, mais vous y convoquez aussi ces fameux grands récits ou des figures universelles, notamment justement des figures du mythe, recyclées, réappropriées, réinvesties à votre manière. Et d'une certaine façon, c'est ça qui est intéressant dans votre œuvre, c'est qu'on a l'impression qu'on revient finalement avec le théâtre, votre théâtre, aux sources même de ce qu'était le théâtre, mais évidemment dans un contexte tout à fait contemporain. J'aimerais savoir, alors, donc vous disiez que l'écriture était quelque chose d'absolument essentiel, vous aviez besoin d'écrire. Comment ces histoires se présentent à vous, quelles sont ces histoires que vous avez besoin de raconter, et puis aussi la place justement de ces mythes. Bon, je parle de mythes parce que je ne suis pas la première à en parler, bien sûr, mais en particulier, je pense à Littoral et à Incendie, où, alors il y a des gens qui ont vu une reprise de l'Odyssée d'Homère avec un personnage d'aveugle, je parle de Littoral en particulier, et Télémaque qui part à la recherche de son père. Il y a aussi le mythe d'Œdipe qui me paraît très, très évident, là, l'aveugle. Il y a Tirésias aussi dans le mythe d'Œdipe. Il y a cette fameuse croisée des chemins où on ne reconnaît pas son propre père, où on l'assassine. Incendie reconduit encore un peu ce mythe avec notamment toute cette question de l'inceste et du père qui est aussi le frère de ses frères et sœurs. Est-ce que c'est dans le processus d'écriture d'une histoire, pour vous, est-ce que c'est quelque chose de conscient, j'aime pas trop le mot, mais est-ce que c'est quelque chose, ça fait partie de ce que vous avez envie de raconter, re-raconter ces mythes-là, ou c'est quelque chose qui s'y infiltre, une espèce de substrat qui s'infiltre, un fil conducteur, mais qui vient presque malgré vous dans votre œuvre?
Eh bien, c'est difficile de réaliser à un moment donné dans son trajet, que si je ne veux pas me mentir, si je ne veux pas me décaler par rapport à ce que je suis, par rapport à ce qui m'a à la fois construit et ce qui m'a dépecé. Parce qu'on est, obligé aussi d'être, c'est terrible, mais on est condamné à être fidèle à ce qui nous a tranché la tête. On ne peut pas mentir à ça. On ne peut pas nier ce qui nous a dépecé. Mais on ne peut pas non plus nier à ce qui nous... Comme on ne peut pas nier ce qui nous a sauvés, ce qui nous a reconstruits. Je ne peux pas nier la guerre dans ma vie, et je ne peux pas nier Kafka dans ma vie. je donne deux éléments énormes, mais qui ont été dans ma vie des événements qui m'ont éduqué, qui m'ont élevé, qui m'ont sauvé ou détruit. Dans le même ordre d'idée, je ne peux pas raconter des histoires, n'a jamais été une décision de ma part. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, par l'espèce de, depuis 3 ans, 4 ans, les indices de rejet que j'ai ressentis, pas par rapport à ce que j'écris, mais par rapport au phénomène du récit. Rejet que je ressentais de la part des structures officielles. Que ce soit ici ou en France ou dans différents endroits, je ressentais une sorte de rejet par rapport au récit, que je ne prenais pas personnellement du tout. Je ne me disais pas, c'est pas moi qu'on n'aime pas, je disais, ils n'aiment pas les histoires, on n'aime plus les histoires. Puis je me dis, vous savez, c'est pas parce qu'on a déclaré que, je sais pas moi, c'est vrai, on a déclaré il y a 100 ans que Dieu est mort, c'est vrai, mais ça n'empêche pas des gens de pouvoir continuer à croire en lui en toute liberté. Ce n'est pas parce que depuis une quinzaine d'années on déclare que l'art est mort, ce qui est peut-être vrai, que ça va faire en sorte que du jour au lendemain il n'y aura plus d'art. Il y en aura toujours. Mais l'idée que l'art puisse mourir comme Dieu puisse mourir est maintenant fait partie maintenant intégrante de notre vie. Eh bien, à ce moment-là, c'est très difficile de faire le point sur soi, de se dire, attends, est-ce que je m'entête à retarder un mouvement salutaire? Quelqu'un m'a déjà dit, vous êtes dangereux parce que les pièces que vous écrivez sont des histoires, et comme vous savez bien écrire et que vous savez bien les raconter, vous donnez aux gens le sentiment qu'enfin ils voient du théâtre. Donc vous retardez le mouvement d'émancipation du théâtre par rapport à ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Peut-être qu'il a raison. Mais en même temps, si c'est ça, je devrais arrêter de faire du théâtre parce que je ne sais pas faire autre chose. C'est pas que je ne veux pas. C'est pas un mouvement de décision intellectuelle, de mouvement. C'est pas que je prends position contre un certain théâtre. Pas du tout. Ou contre une certaine forme de mouvement de l'art. Pas du tout. C'est juste que moi, c'est ça que je sais faire. Je sais raconter une histoire et pour l'avoir fait, je sais que c'est difficile. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas vous figurer à quel point c'est compliqué parce que vous passez. C'est compliqué écrire une histoire, raconter une histoire. C'est quelque chose de. C'est du boulot, hein, concrètement. Et c'est ça que je sais faire. Donc si je ne fais plus ça, il ne faut plus que je fasse du théâtre. C'est pas du théâtre que je fais, j'écris des histoires en homme de théâtre. Ça a été pour moi un moment, ça a été un nœud hein, dans ma vie de défaire ce nœud-là, de pouvoir le défaire en faisant attention de ne pas rentrer dans un combat contre qui que ce soit, parce que c'est pas ça l'idée, c'est de savoir où sommes-nous, en quoi puis-je espérer, qu'est-ce que je sais, vers quoi je vais. Donc ça, c'est le lien à l'histoire aujourd'hui dans ma vie, comment je me situe par rapport à ça. Ensuite, au niveau du... Au niveau des mythes, voici comment ça se passe. Au départ, c'est très enfantin, vous savez, c'est très enfantin comment ça apparaît. Je vais parler de forêt. Tiens, comment c'est arrivé ? C'est vraiment un détail pas tout bête, mais c'est un... je suis en décalage horaire, en France, dans un petit village en Ardèche, un village qui s'appelle Vagnas. C'est tout petit, c'est vraiment tout petit. C'est tellement petit que la boulangerie, ben, il y en a pas. Bon. Il faut attendre que le pain soit livré d'un autre village. C'est tout petit, petit, petit. Ce qui est bouleversant dans ce pays-là, c'est que même dans les plus petits villages, il y a un monument aux morts, parce que même les plus petits villages ont eu des morts pendant les guerres. Il n'y a aucun village qui a été épargné, si on veut. Donc, en pleine nuit, je me lève, parce que je suis en décalage horaire, et je sors, je décide de me promener dans ce petit village endormi, et j'arrive devant le cimetière, je rentre dans le cimetière. C'est plus petit qu'ici, là. C'est tout petit, il y a peut-être une trentaine de tombes. Je fais le tour, doucement, avec le plaisir de m'arrêter devant chaque tombe et de regarder le nom de chaque qui a marqué sur chaque tombe en me disant « c'est quelqu'un ». « C'est quelqu'un ». « C'est quelqu'un ». Bon. Je tombe sur une tombe sur laquelle est marqué Antoine Blondel, 1856-1949. Je vais, quand même. Mais, enfin, juste ça, déjà, je me dis, il a vécu longtemps. Puis ensuite, je me dis, il a vécu les deux guerres mondiales, quand même. Puis là, je me dis, il a même vécu la guerre de 70, il avait 14 ans. Et là, je me dis, quand même, c'est incroyable. Un type a vécu, à lui tout seul, trois guerres contre le même ennemi, si on veut. Là, les trois guerres franco-allemandes, il les a vécues, lui, là. Et c'est la première fois que je réalisais qu'un être humain a pu vivre ces trois guerres. La guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 45. Il était adolescent quand il y a eu la guerre de 70, il était assez âgé quand il y a eu la guerre de 14, et puis presque au bord de mourir quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ça m'a beaucoup trotté dans la tête. Très rapidement, j'ai pensé à Freud. Je suis quand même là. Il a vu arriver la psychanalyse, cet homme. Je me suis dit, il a vu arriver tous les impressionnistes, toute la musique. Et là, je me suis dit, c'est vrai, la musique a changé avec Berg et Schoenberg. Les impressionnistes étaient là, Rodin était là, la psychanalyse. Là, je me dis, il y a eu aussi Proust, la littérature a changé. Je me dis, quand même, il a tout vu. Et puis, il est mort, là, il est enterré dans un petit village, à Vanias. Bref, je suis resté beaucoup habité par cet homme-là. Et puis ensuite, en cherchant un peu, je me suis rendu compte que, en fouillant un peu, je suis rentré à la maison, je continuais à lire un peu, ça m'habitait. Je me suis dit, non, il y a quand même un type qui a vécu, un type qu'on connaît très très bien, qui a vécu aussi ça, c'est Pétain. Pétain est né en 1856 et il est mort en 1951. Et là, quand j'ai réalisé que Pétain est né en 1856, je l'ai lié à Rimbaud, parce que Rimbaud est né en 1854, et là, je me dis, Rimbaud avait que deux ans de plus que Pétain. Et là, le temps s'est comme contracté. J'ai eu le sentiment que Rimbaud était beaucoup plus proche de moi dans le temps que je ne le pensais. En tout cas, il y a eu toute une série de choses et une image. Deux enfants, Arthur et Philippe, jouant dans un terrain vague aux billes, ils ont 14 ans et 16 ans, et voici que leur terrain de jeu est envahi par des bottes, c'est les Prussiens qui rentrent. Et l'un deviendra le grand poète de son pays, et le second deviendra le grand traître de son pays. Bon, mais ça, il y a 5 ans. Alors l'histoire est apparue comme ça. Elle va se développer, je vais vivre avec cette histoire pendant 4 ans. Il n'y aura plus Philippe, il n'y aura plus Arthur, tout ça va passer dans autre chose, on va arriver dans autre chose, dans une autre histoire. Et là, immanquablement, dès que je me retrouve devant une histoire où je me dis « il arrive ceci », je décline. L'Enforêt, c'est l'histoire d'un paléontologue qui trouve un crâne et dont il va essayer de deviner à qui il appartient. Donc la première chose qu'il va faire, c'est à partir des données topographiques du crâne, il va essayer de faire ressurgir le visage. Alors quand je suis devant une histoire comme ça, c'est l'histoire qui me vient, je me dis, est-ce que déjà quelqu'un a déjà raconté cette histoire-là, avant moi? Alors on fouille, je cherche à droite, à gauche, je descends, j'interroge des copains, je lis, je cherche, etc. Puis je suis tombé un jour sur le mythe de... comment il s'appelle celui qui est amoureux de la statue.
Pygmalion.
Alors là, je me dis, tiens, voilà, c'est Pygmalion. Je ne vais pas me mettre à raconter l'histoire de Pygmalion, mais je lis Pygmalion, et là, je tombe sur une série d'événements qui vont nourrir complètement l'histoire. Et je continue. Et ça va m'amener à un autre événement que je vais décortiquer, qui va m'amener peut-être au labyrinthe, à Thésée, qui rentre dans le labyrinthe. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le monstre? C'est quoi un labyrinthe? Le labyrinthe chez les Grecs, labyrinthe symbole de l'énigme. Énigme. Ah, ça serait bien énigme. Qui disait les énigmes? Les pitis, les crises d'épilepsie. Crise d'épilepsie me renvoie à un personnage. Je me dis, tiens, ça serait intéressant, un personnage épileptique. Un personnage épileptique, bon, etc. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais sur une durée de 2-3 ans, quoi. Et c'est dans ce dialogue continu, parce que je pars du principe que tout ce que je raconte a déjà été raconté. Mais comment je peux faire pour que je puisse moins être bouleversé par ce qui a déjà été raconté à travers ce que je raconte moi-même? Alors, c'est pas un désir conscient de vouloir re-raconter les mythes, j'ai pas de leçon à donner à personne. Mais comment faire pour que les histoires que je raconte... C'est parce que je ne suis pas dupe. Je suis grec. Je suis grec parce que je suis chrétien. Et tous les chrétiens sont tous grecs, par saint Paul. Alors je ne vais pas me raconter des histoires et faire semblant que ce n'est pas vrai, que je suis pas, que je ne connais rien à ça. C'est pas vrai. On l'est tous, ou presque tous. Bon. Mais je ne suis pas que grec, je suis aussi phénicien. Mais être phénicien, c'est être un peu avant les grecs. Agénor, roi de Phénicie, sa fille Europe, enlevée par Zeus, amenée en Crète, etc. Tout ça, je ne peux pas le nier. Je peux pas le nier, mais en même temps, il y a eu le 11 septembre, il y a eu... Et en ce sens, j'appartiens totalement à ma civilisation, et je veux lui appartenir totalement. Je n'ai pas envie de faire semblant que je ne lui appartiens pas. Et c'est pour ça que je raconte des histoires, pour essayer de voir dans quelle mesure j'ai hérité de choses dont je ne suis même plus conscient, quoi.
Alors, un autre aspect de votre dramaturgie, où là, peut-être que vous racontez des choses, ou en tout cas, pas nécessairement que vous racontez des choses que les gens n'ont jamais racontées avant, mais où vous les montrez ou les faites imaginer d'une manière qui, moi, pour moi, a été, notamment dans une scène de littoral, a été absolument cruciale et bouleversante, et dont je suis toujours pas remise, c'est la manière de laquelle vous représentez la violence dans vos œuvres. Alors là, bon, vous êtes bien de votre époque, et vous me direz, la violence n'est pas de notre époque, bien sûr que non, mais il y a des façons d'en parler, de la donner à voir ou de la donner à imaginer, et c'est surtout à partir du moment où vous la donnez à imaginer qu'à mon avis, c'est extrêmement puissant dans vos textes. J'aimerais savoir, en revenant sur ça, le passage, enfin, on peut retracer dans vos pièces plusieurs scènes de cet ordre-là. Il y a des scènes où dans les textes même, on sait que sur scène, on va voir de la violence représentée sur scène. Et il y a d'autres moments où justement là vous utilisez ce procédé tout à fait grec, du théâtre grec, du récit de la violence. Je pense à Incendie où il y a le récit par Nawal, d'abord par son ami québécois et ensuite c'est transféré à la voix de Nawal de l'incendie d'un autobus arrosé d'essence, des gens prisonniers dedans qui brûlent sous ses yeux et en même temps sur scène, alors symboliquement, les arrosoirs qui arrosaient le jardin du bon québécois se mettent à cracher le sang. Bon, là, mais la scène qui, moi, m'a le plus troublée, et en particulier de l'avoir représentée très très simplement, c'est dans Littoral, c'est un récit de torture fait par cet abominable personnage qui s'appelle Hakim. Torture qui prend la forme d'un viol, ce viol est doublé d'un inceste et c'est un récit qui est insupportable, qui est d'autant plus insupportable que à la fois on ressent la cruauté et l'horreur de cette violence et en même temps on peut très bien imaginer le plaisir et des tortionnaires et de la personne qui est torturée parce qu'il y a la sexualité qui est en jeu et qui est quelque chose qui semble absolument incontrôlable. Vous avez écrit un autre texte alors qui n'est pas du tout théâtral mais qui est du même ordre et qui est tout aussi terrifiant qui s'intitule Le sexe de l'homme, publié dans la revue Relations. J'aimerais savoir jusqu'où il y a évidemment ce besoin de raconter, de dire la violence et de la faire ressentir, d'en faire ressentir cette ambivalence à la fois horreur et plaisir. là, il me semble que vous touchez à quelque chose qui vous est tout à fait propre, cette capacité de joindre ces deux aspects-là et de les faire ressentir au spectateur. Jusqu'où est-ce que vous décidez, est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez aller trop loin dans ce sens-là, ou est-ce que...
Ce que je peux vous dire, c'est que je suis à la recherche. Toutes ces scènes que vous décrivez, je ne les ai jamais trouvées violentes, moi. Et en les montant et en les écrivant, j'avais le sentiment de ne pas arriver. C'est comme si j'étais en train... C'est comme si je suis désespérément à la recherche de la scène que moi, enfin, je vais pouvoir trouver violente. Et que je ne trouve pas. Et je suis toujours un peu surpris quand on me dit que... Par exemple, ces scènes-là, je suis toujours au bord de les couper. Parce que je me dis, ça marche pas. C'est pas assez violent, c'est mal, c'est pas bon. Par exemple, la scène de l'arrosoir, celle-là, j'ai eu une manifestation de la part des comédiens. Parce que j'ai voulu la couper, parce que je la trouvais pas... Et c'est les comédiens qui l'ont gardée, je dirais. Puis je crois que là-dessus, je suis complètement anesthésié. C'est-à-dire que j'essaye de trouver, même là dans Forêt, je me rends compte, je suis en train d'écrire des scènes, je me dis, je les lis, je me dis, c'est pas, j'arrive pas à exprimer. J'essaye de trouver une scène qui soit assez violente pour qu'elle puisse être à la hauteur du chagrin que je ressens. Et c'est ça qui est aussi, au fond, l'espèce de balance. Le jour où je trouverai ça, le jour où je trouverai la colère qui va exprimer ce chagrin, c'est comme si vous aviez mal aux dents, mais vous n'arrivez jamais à trouver le dentiste qu'il faut, quoi. C'est comme... Puis il essaye de vous l'arracher, la dent, mais la tenaille casse toujours, quoi. C'est un peu le sentiment que moi, j'ai de l'intérieur. Mm-hmm. Et je crois que je suis un peu en quête de... Parce que je me rends compte, quand je regarde ce que je fais, quand je lis ce que j'écris, je me rends compte qu'il y a des choses que... Là où je suis touché, c'est jamais dans la violence, dans la colère. Toujours touché quand tout à coup je suis surpris par une sorte de douceur qui apparaît comme ça dans mes textes, où je me dis, tiens, je suis touché parce que je ne me sentais pas capable de ça. Et je suis comme pris à mon propre jeu, je suis surpris par moi-même d'une certaine façon, mais je ne pensais pas. Mais par rapport à la violence, je n'ai jamais le sentiment de la représenter suffisamment. Donc je ne me dis jamais c'est assez, au contraire, je me dis toujours c'est pas encore assez, mais pour moi.
Parce que vous vous rendez compte de l'effet que ça produit tout de même sur et les comédiens et les spectateurs quand on...
Ouais, alors là il y a quelque chose d'un peu pervers qui rentre en ligne de compte, c'est quand par exemple je me rends compte de l'effet que ça a sur le spectateur, je suis satisfait, mais c'est pas c'est mon orgueil qui est satisfait, c'est pas... Oui, pardon, excusez-moi. Oui, pardon, oui, bien sûr. Oui, donc je disais...
L'effet sur les spectateurs.
Oui, c'est ça, quand je remarque l'effet que ça a sur les spectateurs, c'est ça, c'est mon orgueil qui est satisfait. Bon, c'est humain, mais au fond, fondamentalement, je n'ai pas le sentiment de l'avoir trouvé. C'est-à-dire qu'il faut que... Vous pouvez avoir des milliards de personnes qui vous disent c'est extraordinaire de violence... Et vous, si vous êtes toujours anesthésié par rapport à ça, vous êtes toujours anesthésié par rapport à ça, quoi. Vous n'arrivez pas j'arrive pas à le trouver, quoi. J'arrive pas à trouver la scène que moi je vais trouver violente. Voilà.
Donc, Forêt qui est en chantier maintenant, c'est une autre de ces pièces où vous essayez de... Toujours d'exprimer cette colère, cette violence. Est-ce que dans le triptyque qu'elle forme, ou que je crois qu'elle forme avec Littoral et Incendie, est-ce qu'il y a une résolution autre que dans ces deux pièces précédentes? Est-ce que vous voulez nous en parler un peu?
Oui. Il y a un questionnement que, en fait, l'histoire m'a posé une question, parce que je suis en train de l'écrire. je vais commencer à répéter dans 2 semaines et demie. Donc j'ai écrit les 2 premières parties. Il va y en avoir 7. Tiens, je pourrais vous dire les titres, ça c'est pas mal. Les titres des 7 parties de Forêt, ça va être Le cerveau d'Aimé, Le sang de Léonie, La mâchoire de Luce, Le ventre d'Odette, Les os d'Hélène, et Le sexe de Ludivine et Le cœur de Lou. Donc on voit, ça va être une histoire de femme. Et puis, j'ai écrit les 2 premiers. Je suis en train d'écrire le 3e. Donc j'ai écrit Le cerveau d'Aimé, Le sang de Léonie. Je suis en train d'écrire la mâchoire de Luce. Et puis, en l'écrivant, le texte pose des questions parce qu'il y a des choses qui arrivent. Bon, c'est du travail de structure, etc. Mais... Puis à un moment donné, la question qui m'est venue, ça a été... Qu'est-ce qui peut nous sortir de la prophétie? Qu'est-ce qui peut nous sauver de la prophétie? C'est comme si... Ouais. C'est comme si, oui, les Grecs, les Grecs sont dans la prophétie. Qu'est-ce qui peut nous sauver de la prophétie? Je me suis posé cette question parce que le destin des personnages qui leur tombe dessus, je me dis, mais c'est comme si ça a été prophétisé il y a longtemps, mais qu'est-ce qui peut les sauver? Cette question-là, je ne l'ai pas posée dans Incendie, je ne l'ai pas posée dans Littoral, mais dans Littoral et dans Incendie, il y a une sorte de prophétie inconsciente qui s'abat sur tous ces personnages-là. C'est comme si dans Forêt, le pas supplémentaire que j'essaye de faire, je ne sais pas où ça va me mener, mais le pas supplémentaire que j'essaye de faire, c'est, bon, d'accord, ça fait 2 pièces que j'écris sur la prophétie, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça? Est-ce que je peux trouver une... Est-ce que l'histoire peut me raconter ça? Est-ce que l'histoire peut prendre à son compte cette question? Et en fouillant, en cherchant, en parlant, etc., je suis tombé sur un texte d'Anna Arendt qui dit en substance ce qui nous sauvera de la prophétie, ce sont nos promesses. Et cette idée me bouleverse, vraiment. Je ne peux pas exactement dire ce qui me bouleverse, mais ça me bouleverse de savoir que voici un Dieu ou ce que vous voulez qui vous apparaît et qui vous dit « Vous n'avez pas le choix, je prophétise ceci sur vous, vous serez le malheur de votre famille. Qu'est-ce qui peut vous sauver ?» Ben peut-être c'est la promesse d'un ami d'être toujours là. Il y a quelque chose là, je suis un peu confus en vous parlant parce que je suis en train de le travailler, mais je sais qu'il y a quelque chose là-dedans qui me bouleverse profondément. Alors, quelle forme ça va prendre dans l'histoire? Comment ça va plier l'histoire? Comment ça va tâcher l'histoire, cette pensée-là, cette idée-là? C'est ça que l'écriture va me faire découvrir, enfin j'espère. Ça promet rien, quoi. C'est le cas de le dire. Je sais pas du tout ce que ça va donner comme spectacle. Je sais que ça va être un long spectacle, ça va faire dans les 4 heures, 5 heures. Mais voilà, quoi. Donc je peux pas aller plus loin dans ce que je vous dis là-dessus.
Bien, merci. Nous, on attendra, on sera patient et on va attendre que la promesse porte ses fruits. Et on a déjà passé une 50aine de minutes à parler comme ça. Il y a plusieurs questions que j'aurais aimé vous poser, notamment sur votre rapport à la mise en scène, mais je pense qu'il y a des questions de la salle qui pourront très bien toucher à ça aussi. Alors, je vais laisser donc la parole aux gens de la salle qui ont des questions à poser à Wajdi Mouawad. Je vous demanderai, pour poser votre question, de vous lever, s'il vous plaît, parce que, bon, vous avez eu du mal à l'entendre du fond, donc on aura autant de mal à vous entendre d'ici. Donc, de vous lever, s'il vous plaît, et de poser votre question à M. Mouawad. À ce moment-là. Alors, il y a une question ici. Okay, allez-y, mademoiselle.
Moi, j'ai posé une question vraiment personnelle. J'ai eu un conflit. J'aimerais savoir ce que vous croyez en tant que metteur en scène, si l'intensité, la passion d'une personne et l'émotivité peuvent nuire à sa vision de construire un spectacle.
Je crois que oui. La dernière image que j'ai trouvée pour moi, hein, vraiment pour moi, c'est que un metteur en scène doit être un peu comme Persée. Vous connaissez l'histoire de Persée qui s'en va vers la Méduse? la méduse, un monstre terrible qui a des serpents sur la tête, fait en sorte que quand il vous regarde, vous êtes fait à l'os, c'est-à-dire vous êtes statufié. Et là, il fallait se débarrasser de ce monstre. Alors, on a été chercher un guerrier extraordinaire qui s'appelle Persée. Hadès va lui donner un bouclier pour qu'il protège son regard. Et Hadès va s'approcher de la méduse avec son bouclier, comme ça, devant ses yeux. Et au dernier moment, il va faire basculer légèrement son bouclier de façon à ce que la méduse, en se retournant, voit son propre reflet dans le bouclier de Persée. Et pendant une fraction de seconde, elle va être surprise. Et c'est pendant cette fraction de seconde qu'il va baisser son bouclier et lui trancher la tête. Un metteur en scène, et doublement pire, un auteur metteur en scène, doit être face à ce qu'il fait comme Persée face à la méduse. Le pire qui peut arriver, c'est d'être médusé par ce qu'on fait. C'est-à-dire par... il faut se battre là, comme un combat, un peu comme, si vous voulez... Une autre image qui m'a beaucoup touché... Je ne sais pas si vous avez vu Alien 3. À un moment donné, le personnage est complètement plaqué contre le mur. Il y a ce monstre horrible qui s'approche d'elle et qui la renifle. C'est aussi ça, le rapport avec la création. C'est qu'on est dans un rapport au monstrueux qui est là, tout proche. Tout proche, tout proche. Et à ce niveau-là, il faut garder son calme. Je crois que c'est très important. Mais ça, c'est mon opinion. Et parce qu'il n'y a pas de... Je vous réponds... Moi, il faut que je garde mon calme, plutôt. Parce que peut-être qu'il y a des metteurs en scène, des auteurs qui doivent au contraire laisser aller leur rein, puis de ce chaos va naître quelque chose de juste. Moi, je sais que de mon point de vue à moi, je dois absolument garder mon calme, sinon je vais être dévoré par ce que je fais. D'autant plus que ce que j'écris est long. C'est des longues pièces, c'est des trucs un peu compliqués. Donc je dois absolument garder mon calme.
Monsieur ?
Eh bien, oui, bien sûr. Juste pour ceux qui n'ont pas entendu, la question qui a été posée, c'était où est-ce que j'ai vécu en France et si le départ de la France pour venir ici a été vécu comme un arrachement ou comme une difficulté. J'ai vécu à Paris, dans le 15e arrondissement. J'étais dans une école pour garçons. J'avais 12 ans, non, 9 ans. Donc j'ai été d'abord dans une école primaire, ensuite au lycée. Et je suis resté jusqu'à l'adolescence. Et puis la France a été une sorte de victoire parce que j'ai appris à parler le français en France. J'ai vaincu plein d'obstacles. Et j'en étais très très fier. Et puis voici que, après avoir vaincu tous ces obstacles, pour des raisons qu'on ne m'a pas vraiment expliquées, on a déménagé. Et j'ai eu le sentiment que toutes ces victoires que j'avais remportées avaient été perdues d'un coup. Et il a fallu comme tout recommencer à zéro ici. C'était à l'âge de l'adolescence. Puis... je crois aussi que c'est compliqué lorsqu'un garçon est adolescent en même temps que sa mère est en ménopause. C'est l'enfer, parce que là, tout est, je veux dire, c'est compliqué, c'est compliqué parce que tout le monde est dans des remises en question, le métabolisme est en travail, quoi. Puis, doublé de ça, doublé de la maladie de ma mère, doublé de beaucoup de choses, doublé de ce que je viens de vous raconter, la perte de mes copains, la perte de ces victoires, j'ai eu le sentiment d'un très grand arrachement, oui.
Merci. D'autres questions ? Oui, Nadine ?
Personnel aussi. Je voulais savoir si maintenant avec tous les événements qui se passent au vivant, si vous avez encore un lien à ça et si ça vous perturbe, ou est-ce que c'est au moment où vous êtes parti du vivant, que c'est cette histoire-là qui vous a le plus imprégné et que de là toutes vos histoires en découlent, ou est-ce que le continuement de l'histoire du vivant influe encore à vous?
Il a fallu. Ce n'est qu'à l'âge de 24 ans, c'est-à-dire bien des années plus tard. C'est le début d'un roman, ça, non? Bien des années plus tard. 100 ans de solitude.
Oui, c'est 100
ans de solitude.
Oui,
c'est bien des années plus tard que j'ai pris conscience que j'avais vécu 4 ans de guerre. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était... Je n'y ai pas pensé du tout. Quand j'y ai pris conscience, je m'y suis intéressé, j'ai écrit, etc. etc. Je me suis replongé dans l'histoire du Liban. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup bouleversé, mais pour mes parents. Puis, dernièrement, ce qui s'est passé au Liban, ce qui m'a bouleversé, c'est de sentir que je n'étais pas autant bouleversé que je voulais l'être. Qu'au fond, j'étais bouleversé, mais pas de façon... qu'il y avait quelque chose d'étrangement éloigné, de... que là, il y a un arrachement aussi, mais qui s'est fait un peu à mon insu, que je mentirais de dire que je ressens des choses qu'au fond, je ne ressens pas. Ça ne serait pas vrai. Mais ça me touche. Ça me touche. Mais pas de la même manière que si... ça ne me toucherait pas de la même manière que si, par exemple, j'apprenais que Montréal était envahie et qu'elle était détruite. Là, je pense que je serais vraiment bouleversé. Parce que j'ai mes amis, parce que... c'est sûr que le personnel et le collectif est très particulier, très lié. Mais j'apprendrais que Beyrouth, la guerre serait revenue. Je pense que ça me toucherait plus que si j'apprenais qu'un pays que je ne connais pas, dont je... Bon. Mais il y a quelque chose de confus, de pas clair dans mon esprit par rapport à cette situation.
D'autres questions ? Jennifer ?
Je voudrais savoir...
Levez-vous, s'il vous plaît, puis un petit peu plus.
Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené vers le cinéma ? Comment ça s'est passé, votre expérience ? Puis si vous avez l'intention de...
La question, c'était si qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait du cinéma, comment je m'en suis rendu là, et si j'ai l'intention de recommencer. J'ai fait du cinéma parce que une productrice m'a appelé et m'a dit « Est-ce que vous voulez faire du cinéma ?» Et comme je n'avais vraiment aucune raison de dire non, j'ai dit oui. Quand je dis que je n'avais aucune raison de dire non, c'est parce que qui n'a pas envie de faire du cinéma ? Je veux dire, c'est le truc quoi, qui m'a, moi, je veux dire, j'ai vu dans ma vie beaucoup plus de films que de pièces de théâtre. Quoi. Alors, quand on vous dit « veux-tu faire du cinéma ?» puis que vous, c'est comme si on vous disait « si tu avais un peu de temps, puis ça te dirait d'aller en Mongolie ?» Pourquoi tu dirais non ? Tu dis oui. Donc, c'est un peu comme ça que ça a été vécu de mon côté. Donc, ça, c'est la prémisse. Ça a été ça. La productrice avait vu Littoral, elle avait aimé Littoral, elle m'avait dit on peut l'adapter, c'est très cinématographique. À partir du moment où j'ai dit oui, c'est là où les emmerdes ont vraiment commencé. vraiment commencé, parce que j'ai trouvé l'expérience épouvantable, éprouvante à tous les niveaux, parce que le travail se fait un peu à l'envers de la manière avec laquelle moi je fonctionne normalement. C'est-à-dire que moi, normalement, j'écris mes pièces à mesure des répétitions. Là, il a fallu que j'écrive d'abord à peu près 8-9 versions pour que le producteur soit d'accord de déposer 7 versions auprès des financiers. Elle me disait, il faut que le scénario soit tellement fort qu'il ne puisse pas le refuser. Une fois qu'on a fait ça, on l'a déposé, là, je suis passé devant un jury qui m'a posé des questions auxquelles j'avais strictement aucune réponse, parce que c'est pas comme ça que je travaille. Mais bon, il fallait répondre, alors j'ai fait semblant de répondre, j'ai menti, j'ai dit des affaires qui, je crois, allaient séduire. Ça a un peu marché, mais ça a été refusé une première fois. Là, il a fallu réécrire une autre version, le déposer, et cette version a été acceptée. Une fois que cette version a été acceptée, on nous a donné de l'argent pour faire cette version. Mais l'argent qu'on nous a donné n'était pas suffisant. Donc, il a fallu que je réécrive une autre version qui n'a presque rien à voir avec la version qu'on a déposée, vu qu'on n'a pas assez d'argent. Alors moi, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on m'a tellement fait écrire des versions pour que finalement, la directrice de production me dise, il faut que tu coupes cette scène-là, il faut que tu coupes ce personnage-là, etc., etc., etc. Et là, je vous passe des détails. Le tournage, ça a été costaud, etc. Finalement, je me suis dit, finalement, le faire du cinéma, c'est un cauchemar qui consiste à faire rêver les gens. Quoi. C'est bon. Mais ça, c'est moi. Et je crois que quand j'en parle avec mes copains cinéastes, je me suis rendu compte qu'être un bon réalisateur de cinéma, c'est être capable de gérer ces contraintes épouvantables en pleine tempête et créer à l'intérieur. En tout cas, au Québec, c'est comme ça. Et moi, personnellement, je ne referai pas du cinéma dans ces conditions-là parce que je ne sais pas faire ça comme ça. C'est une question de savoir-faire. Je n'ai pas ce savoir-faire. J'ai besoin de temps. Je suis un lent. Je dois écrire à mesure de mes répétitions. Je dois écrire à mesure de ma création pour construire comme ça. C'est comme ça que je fais. C'est pas ni moins ou ni mieux. C'est pas une considération qualitative. C'est une sorte de... C'est le nez que vous avez. Vous ne pouvez pas avoir un autre nez. C'est la couleur de vos yeux. C'est ça, quoi. C'est tout. C'est comme ça que vous créez. Ça prend 10 ans, 15 ans de savoir comment on crée. Enfin, moi, dans mon cas, ça m'a pris 15 ans. je peux pas mentir à ça maintenant, quoi. Donc ça a été un peu ça le trajet.
Quelqu'un d'autre? Stéphane? Stéphane d'abord et Madame après. Bon ben là. Allez Stéphane.
Alors, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand on me pose la question « Où est chez toi ?» et que je comprends que la question est d'ordre géographique, parce que je peux jouer avec les mots, je peux dire « Chez moi, c'est l'écriture », etc., 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 c'est clair, je mens. Mais mettons que je veux vraiment répondre à la question, eh bien, la vérité, je suis Montréalais. Ça, c'est indéniable. Je me suis dit, je suis un type de Montréal. Je vis à Montréal, je crée à Montréal. Mes amis sont Montréalais. Je connais cette ville comme ma poche. Je l'aime et elle m'énerve au plus haut point. J'ai un rapport tellement émotif avec cette ville-là que ça serait faux de dire que je ne suis pas Montréalais. Je suis Montréalais. Vraiment Montréalais, quoi. Ça, c'est clair. Je ne suis pas Québécois. Je n'arrive pas à me dire je suis Québécois. En fait, je le dis, mais de façon officielle. Alors que quand je dis je suis Montréalais, je ne suis pas dans l'officiel, je suis vraiment dans la chair des choses, ouais. Alors à partir de là, mon rapport au Québec est souvent un rapport à... Alors, non, avant de dire ça, le Québec m'a permis de nommer m'a permis de définir ma compréhension de l'artiste. Oui, c'est ici que ça s'est fait, et ça s'est fait grâce à ici, parce que c'est ici que j'ai été ulcéré, j'ai été en colère contre des choses qui ont été faites, que je ne pouvais pas supporter, et un peu comme vos parents qui vous insupportent, mais parce qu'ils vous insupportent, et parce que vous les confrontez violemment, eh bien, vous vous composez, vous vous éduquez vous-même, vous prouvez que vous êtes capable de faire émerger en vous un sens. Ici, j'ai pu prendre position violemment sur des choses qui m'énervaient, à tort ou à raison, parfois maladroitement, peu importe, mais j'ai pu le faire. Et j'ai pu donc, peu à peu, nommer l'espace, me rendre compte que ce n'est pas l'espace social qui m'intéresse, c'est l'espace métaphysique qui m'intéresse, qui me passionne au plus haut point, et que si cet espace-là, on lui interdit sa raison d'être, comme lorsqu'on interdit par exemple à la chaîne culturelle de Radio-Canada d'exister, ça me touche profondément. Quand on met des pancartes sur une scène de théâtre, ça me touche profondément, parce que ce sont des espaces du métaphysique qu'on enlève, où on dit finalement c'est pas important... nature aime se cacher, c'est pas vrai, non, 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 on peut tout expliquer par la sociologie, etc. Moi, ça me met dans des états... C'est ici que j'ai ressenti ces colères-là contre la sociologie, je dirais, contre la vulgarisation à tout prix. C'est là où j'ai ressenti ça. Donc ça m'a permis de nommer ça. Et donc, par le même fait, de prendre part à ce pays, à cette société qui se construit et qui, par moments, me donne envie de m'en aller, quoi. Mais dans cette envie que j'ai de m'en aller, je me dis, longtemps je me suis dit, c'est binaire. J'ai envie de m'en aller, je m'en vais. Alors que c'est pas ça tout à fait. J'ai envie de m'en aller, donc je suis attaché. Donc je m'en irai pas. Donc je vais me battre. Donc je vais le dire ce que je pense. Donc je trouve que bon, patati, etc., etc. Voilà, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et donc là, mais je dirais vraiment que c'est dans la dernière année que ça s'est passé. Après le Katsu, après avoir quitté le Katsu, après l'espèce d'année sabbatique que j'ai pris où j'ai fait un espèce de tour du monde et je suis revenu, dans l'année qui a suivi ça, c'est là où j'ai comme réussi à nommer des choses comme ça, que j'ai ressenties.
J'aimerais juste demander, dans le même ordre d'idée, les collaborations internationales ont commencé quand pour vous
Comme auteur, ça a commencé en 1994, lorsque j'ai été invité pour la première fois comme auteur en résidence au Festival des Francophonies de Limoges. Et là, après, ça s'est poursuivi. J'en ai fait une à Paris, une à Prague. Et puis, par la suite, il y a eu, après Littoral, les premières coproductions pour Rêve. Et puis, après Rêve, il y a eu Incendie. Là, ça a été encore une plus grosse coproduction. Et Forêt, c'est carrément une production française, je dirais, presque. Exclusif. Le Québec participe à peu près 10% du projet, en fait.
Il y avait une dame ici, oui, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît.
Dans l'extrait que vous avez lu tout à l'heure, qui m'a surpris, et c'est une stratégie de terrasse que je voulais, c'est du temps que vous avez voulu un espèce de processus de délire verbal qui arrive du jeune homme, qui arrive en contradiction avec le silence de la mère.
Je vais répéter votre question pour les gens qui sont au loin. Dans le monologue que j'ai lu, le rapport entre la logorée verbale du personnage qui contraste avec le silence de la mère. En fait, il y a deux choses. Quand je travaille avec les comédiens, il y a une chose que je leur dis souvent, c'est les mots sont en français, mais c'est écrit en arabe. Et c'est écrit en libanais, pour être plus exact. Chez les Libanais, on ne dit jamais les choses une fois. C'est pas des Suédois, si vous voulez, c'est pas des Nordiques, c'est pas sort. Non, c'est on répète trois fois la même idée, mais de façon différente, parce que le rythme devient une sorte de respiration émotive. Donc on ne va pas dire seulement va-t'en, on va dire pars, sors, crée ton camp, dégage, va-t'en. Tu sais, on va le dire 5-6 fois de différentes façons pour exprimer l'espèce de sentiment, d'émotion qui passe beaucoup par le rythme. C'est une langue extrêmement métaphorique qui passe par les images, qui les réexplique, l'image. Je racontais ça dernièrement. Ma mère, quand elle m'engueulait, non seulement elle m'engueulait pour la raison pour laquelle elle voulait m'engueuler, mais elle me disait aussi où nous étions, le temps qu'il faisait. C'est-à-dire que non seulement elle me disait ce qu'elle voulait me dire, mais elle faisait la didascalie au complet. Elle me disait, je sais pas, là, maintenant, ici, là, dans la maison, avec le temps qu'il fait, là, etc. C'est, elle sort les poubelles, descend, puis arrête, ferme, etc. Bon, il y avait quelque chose comme ça de tout est dit. Et enfin, je crois que j'aurais souhaité un peu de sous-texte, parce que je pense que ça m'aurait fait un peu de bien, mais il y avait tellement, tout était tellement dit, du plafond jusqu'au mur, et c'était bord en bord, quoi. Que tous mes textes, au fond, c'est intéressant ce que vous posez comme question, parce que la dernière mise en scène que j'ai faite, c'est un texte de Louise Bombardier. Il y a des longues périodes, c'est une pièce qui raconte l'histoire d'une mère qui est en train de mourir et qui est veillée par sa fille. Il y a un niveau de réalité, un niveau de rêve. Les niveaux de réalité, je les ai montés vraiment, vraiment réalité. Chambre d'hôpital, la mère est seule, la mère est en train de mourir, la fille veille, la mère est agonisante, elle n'est pas du tout consciente, donc qu'est-ce que tu fais? Qui parle? On ne parle pas beaucoup à soi-même quand on est tout seul. Enfin, donc il y a des longues périodes de silence où il ne se passe rien. Elle est assise, elle s'ennuie, bon. Et en travaillant là-dessus, je me suis dit, tiens, après Forêt, après Ciel, qui va clore un peu ce quatuor, je pense que je vais me lancer dans des histoires lyriques, épiques, mais avec très 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 peu de mots. J'ai envie de travailler des longues séances comme ça, que j'ai vécues, par exemple, mon père et moi regardant un match de hockey, et on ne parle qu'aux pauses publicitaires, pour se dire des choses énormes du style « j'aurais jamais dû me marier, avoir des enfants, j'ai raté ma vie », etc., etc. La pause se termine, on regarde le match. Et je me dis, j'ai envie de raconter quelque chose comme ça maintenant, peut-être. Parce que j'ai eu le sentiment que pour pouvoir aller ailleurs dans l'écriture éventuellement, il va falloir que je passe par le silence un peu plus.
parce que c'est le silence ici aussi. Non, y a-t-il d'autres questions? Non, mais... Pourquoi avez-vous refusé le prix
moyen,
c'est ça?
Ben, je... Non, mais j'étais pas du tout... Vous savez, c'est la lettre que j'ai écrite pour exprimer ça était d'une gentillesse. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai mis toute ma gentillesse là-dedans parce que je ne suis pas contre ce genre d'événement du tout. Mais ce sont des événements qui sont créés par le milieu du théâtre, pour les gens du milieu. Et c'est comme si, parce que certaines personnes du milieu décident de créer ça, c'est comme si tout à coup tous les gens du milieu devaient y participer. Mais peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. C'est pas grave de ne pas être d'accord. Moi, la seule chose, c'est tout simplement que j'ai un peu de... c'est pas comme ça qu'on m'a élevé. C'est organisé par des gens du théâtre. C'est jugé par des gens du théâtre, c'est fêté par les gens du théâtre et on récompense des gens du théâtre. Je trouve que c'est un peu comme si dans votre famille, vous vous récompensiez vous-même. On peut faire des échanges de cadeaux à l'intérieur d'une famille, ça c'est vrai. Ça c'est agréable, faire des échanges de cadeaux, c'est formidable. Mais imaginez une famille, le père, la mère, le frère, la sœur, les cousins, etc. Et on se dit, bon, on va s'organiser les prix. Puis il y a quelque chose qui me semble un tout petit peu... Mais ça, c'est mon opinion, et je ne dis pas que ça ne devrait pas exister. Je comprends très très bien que ça puisse exister, mais personnellement, c'est quelque chose qui me met vraiment mal à l'aise, quoi, vraiment. Alors que j'ai aucun problème lorsque le prix vient de l'étranger, c'est-à-dire que de la famille d'en face, tu sais, ou un mécène, les critiques, etc., qui disent, nous sommes indépendants à votre milieu, nous vous donnons un prix. C'est formidable, c'est super, merci infiniment, c'est gentil. Mais que ce prix soit donné par les gens du milieu eux-mêmes, que ce soit organisé par les gens du milieu, etc., etc., c'est là où je trouve que c'est un peu trop. Donc c'est pour ça que je l'ai refusé aussi. Je l'ai aussi refusé parce que je le refuse ici, vous imaginez. Je ne m'inscris pas au masque, sans aucune violence, je ne veux juste pas m'inscrire. Et vous imaginez ce que c'est pour les gens... ici, à qui, pendant 4 ans, j'étais au Katsu et j'ai refusé d'inscrire toutes les productions qui passaient au Katsu au masque. Et tout à coup, j'ai réaccepté un prix ailleurs. Ça serait comme un tout petit peu indélicat, quoi.
D'autres questions?
Oui, non, je comprends très bien ce que vous dites. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui se cogne la tête contre un mur pour pouvoir ressentir sa tête. Puis, il a tellement été cogné avant qu'il n'arrive pas à trouver la force pour enfin ressentir quelque chose parce qu'il s'est trop habitué à des coups, quoi, si vous voulez. Et vous prenez quelqu'un qui n'a... C'est pas une question de comparaison de la violence, c'est juste une question de... C'est-à-dire, je ne la mesure pas. C'est comme si j'avais perdu le nerf qui me l'a fait ressentir de façon plus sensible. Je suis devenu un peu... J'ai perdu une certaine sensibilité face à ça. C'est pas que je la cherche pour la chercher d'une façon masochiste, pas du tout. Je la cherche pour pouvoir la ressentir, pour pouvoir participer à la révolte contre la violence. Pour se révolter contre la violence, il faut la ressentir, cette violence. Et puis, je trouve que peu de choses me touchent, comme spectateur ou comme auteur moi-même, quoi. C'est quand je dis que peu de choses me touchent au niveau de la violence, il y a peu de choses que je vois au cinéma ou au théâtre où je suis violenté. Vraiment.
Est-ce que ça devient un critère pour choisir les pièces que vous mettriez en scène? Est-ce que...
Non, je ne suis pas non plus obsédé par ça, tu sais, mais quand elle se présente, ouais. Quand elle est là, non, le critère pour choisir des pièces que j'ai envie de monter, c'est des pièces qui peuvent me permettre de mettre en scène encore le sentiment du mystère qui est d'exister, que moi, ça, je ressens fortement. Et que... Je je refuse de faire en sorte que ce mystère me soit expliqué, soit par la psychanalyse ou par le social. Et je ne dis pas que le social et la psychanalyse ou le politique ne peuvent pas donner des réponses, mais je dis qu'il y a aussi un autre niveau qui, moi, me bouleverse beaucoup plus, parce que quand j'étais petit, on arrivait à me faire croire que les statues pouvaient bouger. Et pendant des heures et des heures, je suis resté devant des statues à attendre qu'elles bougent. Et si elles ne bougeaient pas, ça ne devenait pas une preuve comme quoi les statues ne bougent pas. C'était au contraire une preuve que les statues bougent, mais c'est un événement tellement rare que ça peut... Si vous n'êtes pas attentif, vous ne le verrez pas. Et moi, ce qui a rendu mon enfance heureuse, c'est quand j'entendais ma mère dire à la voisine « Tu ne sais pas ce qui est passé hier, il y a une bombe qui est tombée dans un abri, elle a explosé, puis la statue de la Vierge, elle s'est retournée, elle a ouvert les bras, et puis les éclats d'obus se sont transformés en pétales de rose, et la voisine d'en face lui dit « Ah, bah c'est bien !» Puis tout le monde était content, puis moi j'entendais ça, et je veux dire, on avait un grand tableau de Élie, le prophète Élie, découpant la tête des prêtres, je ne sais plus, enfin... Le tableau était le suivant. Il y avait un corps qui était déjà décapité au sol. Il y en avait un autre que Élie tenait fermement par le collet avec le sabre levé et en train de l'abattre. Et il y avait le troisième qui attendait patiemment son tour, l'air un peu terrorisé. On avait ce tableau dans la chambre. Et ce tableau m'a foutu les frayeurs de ma vie. Mais ces frayeurs, aujourd'hui, sont les seules qui peuvent me permettre aujourd'hui de me dire que mon enfance a vraiment été belle. Que j'ai ressenti des frissons que je ne peux même pas vous raconter. Et j'ai pas envie, sous prétexte de pragmatisme ou de réalisme ou de ce balancer tout ça, j'ai pas envie. Et c'est là où, quand je monte des pièces, je dois avoir cet événement-là, cet élément du mystère, de l'incompréhensible, que j'ai envie de mettre en scène, parce que j'ai envie, moi, de continuer à y croire, quoi.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vais en prendre peut-être encore une autre après celle-ci.
Vous avez parlé de votre rapport à l'écriture et à la création tantôt. J'aimerais ça vous entendre parler de votre rapport à l'art en soi. Mon réflexe est de penser, l'idée m'est venue à cause de Willy Photographie, quand j'ai lu. Justement, dans cette pièce-là, je n'arrive pas à savoir votre rapport à l'art.
Ben, je pense que mon rapport à l'art, c'est un rapport de... C'est le surgissement. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, il a surgi comme une chose que je n'avais pas du tout prévue, puisque je ne connaissais pas son existence. Je ne savais pas que ça existait, parce que je n'ai pas vécu dans un milieu, dans un contexte qui s'en occupait, ou qui en était spectateur, ou habitué, ou etc. Donc, ça a surgi dans ma vie... un moment où ça allait très très mal, et c'est apparu comme une sorte de diarrhée, de saleté, pour être plus exact. C'est apparu comme une chose qui, à première vue, était sale. C'est-à-dire une chose qui, mes parents m'auraient dit, touche pas à ça, c'est sale. Mais je me rendais compte que cette chose qu'on disait sale m'attirait. Et c'est là où je crois que ça a rapport au surgissement. Après, j'ai intellectualisé ça, je me suis mis à lire beaucoup et tout, etc. J'ai été éduqué, j'ai été élevé, j'ai développé une pensée par rapport aux choses. Mais essentiellement, c'est un surgissement un peu comme une sorte de barbare qui débarque dans votre vie, quoi, tout à coup, et qui vous dit « je suis le barbare ». Et vous vous dites ben, « il m'intéresse plus que ma civilisation ».
Oui, monsieur, si vous pouvez vous lever.
Une question, je ne sais pas si vous avez dans le contexte québécois actuel, mais j'aimerais que vous entendiez dire effectivement, si vous en avez vu, le lien que vous faites entre votre œuvre, le mystère, le mystère, et la dimension plus explicitement spirituelle.
Eh bien, il y a eu un chemin qui s'est déroulé. C'est-à-dire que au début, il y a, pendant que j'écrivais, enfin c'est ça, dans la vingtaine, j'écrivais avec le sentiment que ce mystère-là, qui me touchait, était lié à la foi en Dieu. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la foi en Dieu en tant que telle n'arrivait plus à... était étrangement dépassée par ce sentiment-là. Et je me rendais compte que parfois, je retrouvais ce mystère. Moi, j'appelle ça aussi cette soif. C'est Lautréamont qui parle de la soif insatiable de l'infini. Cette soif insatiable de l'infini, avant, j'avais l'impression qu'elle était, elle ne pouvait être liée qu'à Dieu. Et puis, à un moment donné, l'idée de Dieu n'arrivait plus à la compléter complètement. Ou, il y avait quelque chose qui... C'est comme si ça s'éloignait. Oui, l'idée de Dieu peut être une réponse à ça, mais c'était plus suffisant pour moi. C'est là où, à un moment donné, c'est passé vers quelque chose que j'ai appelé une sorte de réalité, une beauté onirique entre les hommes, entre nous. Entre nous, quoi. Oui, ça peut passer par Dieu. Parfois, dans ma vie privée, elle y passe, mais je me suis rendu compte que ça ne la concerne plus complètement, que ça concerne plus dans mon rapport à l'autre, à cette incapacité que j'ai de comprendre qui je suis et qu'aucune réponse qui m'est donnée n'arrive à le remplir, pas même Dieu. Donc c'est là où j'ai libéré ce sentiment-là, même du religieux, alors qu'il y a quelques années, je le rattachais. J'ai écrit une pièce qui s'appelle « Les mains d'Edwige au moment de la naissance » qui était liée à ce moment-là complètement là-dessus, mais qui va peu à peu se détacher, incendie se détache complètement, dans Forêt, je me détache encore plus. Et c'est comme si je me dis aujourd'hui que la véritable foi consiste à croire... Non, je vais me taire. En fait, je pense à Antigone et Ismène. C'est peut-être une belle façon de terminer, je ne sais pas. Mais c'est comme si, vous savez, dans Édipe, Édipe a eu quatre enfants. Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène. La seule qui va survivre, c'est Ismène. La seule qui ne mourra pas. Alors on peut imaginer que Ismène a eu des enfants et que nous sommes tous ici les enfants d'Ismène. Ismène disait à sa sœur, mais pourquoi tu ne te calmes pas? Mais Ismène est peut-être la personne qui est le plus apte à comprendre la douleur d'Antigone. Ismène était peut-être la plus proche d'Antigone. Alors c'est comme si je vois nos vies un peu comme si nous marchions sur une crête, sur une montagne, où d'un côté vous avez le monde d'Ismène avec sa vie, sa beauté, son calme, sa diligence, son élégance, sa peur aussi, sa frayeur, son désir d'organisation, son désir de... bon. Et de l'autre côté, vous avez aussi le monde d'Antigone qui, lui, est fait de monstres en colère, d'un désir, de cette soif insatiable de l'infini, désertique parce que difficile à arpenter, parce que le sol est tellement chaud que ça nous brûle les pattes. Je me dis que j'ai réalisé dans ma vie que j'avais besoin d'être sur la crête, que je ne pouvais pas perdre de vue le monde d'Ismène, mais s'il fallait que je perde de vue le monde d'Antigone, je mourrais. Mais si j'allais directement que dans le monde d'Antigone, je deviendrais fou. Et en marchant sur cette crête, j'arriverai à trouver peut-être, à rester dans ce mystère-là, peut-être. Voilà.
Merci beaucoup, Wajid Mawad.
Merci à vous.